skýjum hlá, líst upp gamla götu slóð.
Bonjour à tous, j'espère que vous passez un très bon samedi matin en écoutant Art District. C'est Julie Chaise-Martin et je vous propose d'écouter tout de suite Hors des cadres, l'émission consacrée aux expositions et événements d'art urbain et de street art. Bonjour à tous, il est 11h sur Art District, c'est l'émission Hors des cadres. C'est Julie Chaise-Martin au micro et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jo Di Bona, artiste d'art urbain. Bonjour Jo.
Bonjour.
Alors Jo Di Bona, je vous reçois aujourd'hui parce que la semaine prochaine vous avez une exposition qui commence à la galerie Knafo Art, vous allez nous en parler. Cette exposition s'appelle Transition. Alors ça fait de nombreuses années que vous allez dans la rue ou bien dans les galeries, que vous peignez des grandes fresques murales ou bien des toiles de plus petit format. Votre galerie Joël Knafo Art, ça fait, je crois, assez longtemps que vous collaborez avec elle. Alors cette exposition Transition, moi j'ai eu l'impression, en lisant un petit peu ce que j'ai pu voir, soit sur votre profil Facebook, soit sur le site de la galerie, que c'est un petit peu, Jo Di Bona, artiste, je fais le point, j'ai déjà fait beaucoup de choses avant, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Alors est-ce qu'il y a un petit changement de style qui s'annonce?
Bah écoute,
On peut se tutoyer parce qu'on va le dire aux auditeurs, oui. On se connaît très bien en fait.
Bon,
donc allez, on arrête, voilà.
On se tutoie, non, désolé, c'est l'habitude.
Donc on se tutoie, ça marche.
Allez, soyons fous. Oui, effectivement, donc c'est... Alors après, c'est un petit peu prétentieux de se dire je fais un point par rapport à tout ce que j'ai fait, etc. C'est pas vraiment l'idée. C'était plus en fait pas mal d'échanges que j'ai eu donc avec Joël Knafo qui est mon galeriste parisien avec qui je collabore depuis pas mal de temps. Alors te dire exactement depuis combien de temps, je suis un peu nul en date, etc.
Mais bon, on va dire en tout cas il y a une relation, une complicité et que il expose ton travail depuis, depuis plusieurs fois déjà.
Voilà, c'est ça. Donc,
il est où d'ailleurs ce galeriste?
Alors, c'est rue Véron, donc c'est au 21 et 24 rue Véron. En fait, il y a deux petites galeries différentes. Donc, il y a une première qui propose des livres, des éditions, etc. Et l'autre qui est un petit peu plus grande au 24. Et dans laquelle je vais mettre des œuvres plus grandes que dans la plus petite.
Alors, il faut préciser que c'est une galerie qui est vraiment spécialisée dans l'art urbain.
Oui, exactement.
Voilà. Et en plus, je crois que cette rue Véron est investie aussi par différents dessins, graffitis et autres fresques d'artistes d'art urbain dont toi, tu as déjà fait des fresques dans la rue.
Oui, exactement. En fait, ce qui est intéressant avec Joël, c'est qu'il c'est quelqu'un qui ose et qui n'a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que tous les artistes qui sont passés, je peux prendre comme exemple Le Valet qui a exposé avec Philippe Erard. Ils avaient fait un duo show. Ils avaient investi toute la rue avec des personnages qui animaient la rue, etc. Donc, c'était et vraiment bien pour les habitants. Alors, c'était pas forcément facile pour Joël de faire accepter ça tout de suite. Et puis, petit à petit, il a eu des coups de folie, comme mettre un tapis rouge dans la rue Véron pour accueillir les gens à certains vernissages. Donc, t'arrives à un vernissage sur un tapis rouge, les voitures roulaient dessus. Enfin, c'était assez rigolo. Et puis, il a fait pas mal d'autres choses, notamment des expos... à plusieurs où on a exposé que sur du bois. Donc où dans la rue il avait mis des palissades, plein de choses qui étaient liées à son expo, des pots de fleurs un peu custom, enfin pas mal de pas
donc
mal
c'est
de
sa rue en fait, la galerie.
Ça l'est devenu petit à petit, il s'est fait accepter dans cette rue et voilà. Puis les gens jouent le jeu, il y a d'autres galeries, il y a d'autres commerçants et puis en fait c'est vraiment un quartier de Paris qui vit un peu à l'ancienne. Où tout le monde se connaît, les gens se retrouvent dans le petit bar qui n'a pas bougé depuis les années 1920, tu vois.
Donc en fait, c'est Montmartre, hein. Faut aussi, voilà. Pour ceux qui ne se situeraient pas tout à fait.
C'est le quartier des Abbesses, avec toute cette vie. Vraiment, j'adore, moi, cette époque un peu 1900, chat noir, tout.
Ah oui, donc il y a à nouveau, finalement, des groupes d'artistes à Montmartre, alors qu'ils ne sont plus, évidemment, les artistes d'avant-garde, Picasso et autres, d'il y a 100 ans. Mais voilà, en fait, vous êtes un peu les nouveaux artistes, les nouveaux cercles du Montmartre artistique.
C'est intéressant que tu dises ça, parce que je le souhaite, en fait. J'aimerais tellement, mais comment le savoir ? En fait, c'est le genre de choses qui deviennent belles, c'est des histoires qui deviennent belles avec le temps, comme un bon vin. J'espère que ça deviendra ça. Après, je souhaite, j'ai des fois l'impression, quand j'échange des œuvres avec d'autres artistes, qu'on fait des collaborations, tu vois, qu'on fait des expos collectives, comme dont je te parlais, dans la rue Véron, ou... Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette identité-là qui est en train de se créer, et j'espère qu'elle sera pérenne et qu'elle restera longtemps, en tout cas, mais... Ouais, je pense que ça pourrait être une belle histoire, si le graffiti devenait vraiment dans cette mouvance, et puis, bah, Paris, ça véhicule tellement de belles choses que...
Alors, tu parles justement de graffiti, hein, tu as exprimé le terme. Toi-même, Jody Bona, tu te qualifiais en tant qu'artiste graffiti, c'est ça, je crois ? Pop graffiti, en fait. Alors, voilà, il y a une petite différence, je crois, entre le street art et le graffiti. Où est-ce que toi, tu te situes ? Est-ce que tu peux, voilà, un peu éclairer notre lanterne et les auditeurs qui ne seraient pas forcément très au fait de tout ça ?
Alors... En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, tu vois, par exemple, vous êtes une radio où vous parlez de jazz, et c'est vrai que dans le jazz, t'as le free jazz, t'as le jazz contemporain, t'as plein de choses.
Plein de tendances, plein de formes, plein d'influences qui se mêlent aussi.
De mouvements, après de gens qui vont intégrer ça, et je compare souvent ça à la musique. Moi, j'aime bien quand je vais acheter un album... me dire, voilà, ça c'est un album de rock, c'est peut-être un peu bête et basique, mais j'aime savoir ce que j'écoute. Si je vais acheter un disque de rap, je vais pas le trouver au rayon variété française. Donc pour moi, c'est exactement pareil dans un mouvement de peinture qui est aussi vaste que le graffiti. Et j'ai souvent soit des débats ou des discussions là-dessus. C'est assez intéressant dans le sens où moi j'ai besoin de catégoriser, je trouve ça très intéressant de catégoriser. Et moi, pour pas que ça soit un espèce de, que street art, en fait, aujourd'hui, c'est un espèce de fourre-tout. C'est un grand panier, on balance tout. Moi, j'ai dit, voilà, je fais du pop graffiti. C'est-à-dire que je mélange le pop art. Et donc, c'était un peu pour dire aussi que le passé est très important dans mon travail, que je suis pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui sont passés avant moi, et notamment les artistes pop. Ça peut être l'école américaine, enfin tout ce qui est pop, et c'est ce qui me nourrit le plus, et le graffiti. Et j'ai voulu mélanger donc ces deux écoles, c'est-à-dire vraiment le côté pop populaire avec le graffiti, pour que le graffiti devienne populaire et soit accessible au plus grand nombre, parce que c'était vraiment quelque chose de très, très fermé. Moi, quand j'ai commencé le graffiti dans les années 89, enfin voilà, dans ces eaux-là, c'était très très fermé, c'était... On s'adressait que aux autres graffiti artistes. Enfin, à l'époque, on s'appelait même pas artiste, si tu veux. T'es plus vandale qu'autre chose.
Oui, parce que c'était finalement... c'était où ? C'était sur les rames de métro ? C'était
partout.
Dans la rue ?
C'était partout,
en fait. Où est-ce que toi, tu allais, par exemple, si c'est possible de le dire ?
Bah, oui, je pense qu'il y a prescription. Faudrait que je révise la loi un peu, mais je crois qu'il y a prescription. Non, je faisais beaucoup les lignes de train. Donc, je faisais la ligne B du RER, la ligne qui est actuellement la ligne E. Donc, à l'époque, c'était Reims-Paris-Est. Donc ça, on la sillonnait la nuit à pied. Je peignais dans les dépôts de train, donc je faisais les trains gris.
Donc tu peignais, tu...
En fait, j'avais mon blaze,
voilà.
Tu vois, que je dupliquais un peu à l'infini. C'était l'histoire un petit peu comme un chien qui va marquer son territoire, en fait. C'était vraiment ça. C'est-à-dire le mettre au plus grand nombre d'endroits pour être vu par le plus grand nombre de gens. Le problème, c'est que le plus grand nombre de gens, c'était plutôt le plus grand nombre de graffeurs. Donc... Voilà, ça restait c'est un petit milieu. Et au final, aujourd'hui, moi, avec Pop Graffiti, c'est un peu un terme que j'ai créé, mais d'autres artistes peuvent se l'approprier. C'était aussi pour dire, voilà, ce graffiti-là, tout le monde peut se l'approprier et tout le monde peut s'y intéresser, si tu veux. Donc voilà, mais... Aujourd'hui, il y a tellement de choses, tu vois. Il y a le street art. Alors, pour moi, le street art, c'est de l'art avec la rue. Et le graffiti, c'est de l'art aujourd'hui dans la rue. Peu importe, tu vas pas jouer avec... tu vas prendre un mur, tu vas aller, tu vas peindre, tu vas faire ta fresque. Le street artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui va jouer avec la rue. C'est-à-dire, si la rue lui donne quelque chose, il va rebondir dessus, s'en servir et le magnifier avec une œuvre d'art. Voilà, je cite souvent... Ernest Pignon-Arnest, Banksy, Le Valet, qui sont vraiment des artistes de street art, qui savent utiliser la rue. Moi, je ne sais pas le faire. moi, la rue, je suis un bourrin, j'y vais, je peins. Voilà, c'est un peu ça, tu vois.
Bon, en tout cas, tu as déjà fait des grandes fresques un peu partout. Alors, pas qu'en France, pas qu'à Paris, aussi aux États-Unis et puis peut-être dans d'autres pays. Tu vas nous en parler juste après la pause. On va aussi reparler évidemment de cette exposition parce qu'on s'est un tout petit peu éloigné du sujet, mais c'est intéressant voilà, de connaître un petit peu qui tu es et puis de voir que le graffiti donc dans la rue, mais entre aussi maintenant en galerie de plus en plus, hein, les street artists. Quel chemin parcouru justement depuis l'époque que tu évoquais juste avant et puis aujourd'hui où finalement maintenant les œuvres des street artists et des graffeurs et autres artistes d'art urbain entre dans les musées. Mmh. Voilà, en tout cas, puisqu'on parlait un petit peu du passé, eh bien, je te propose d'écouter un morceau que tu as choisi, qui est donc du jazz, puisqu'on est sur Art District et que c'est une radio art et jazz. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ce morceau, pourquoi tu l'as choisi? C'est un morceau très très connu, Summertime, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, évidemment, on adore. Allez, un petit mot pour lancer le morceau.
Bah écoute, pour moi, c'est dans le jazz, ça fait partie presque de la pop du jazz, c'est-à-dire que voilà, je mettais du jazz très fort à la maison, et quand Summertime est passé, ma chérie, elle a crié, elle a dit ça, faut que tu le mettes absolument. J'ai dit bon, allez, c'est parti, et puis en plus, c'est une chanson, et c'est une femme, avec une trompette extraordinaire derrière. Donc
on écoute tout de suite Summertime, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, on se retrouve juste après.
And the living is easy. sense of
fish are jumping and the cotton is high.
Retour dans l'émission Hors des cadres. Nous sommes donc sur Art District. C'est la fin de la matinée. J'espère que vous passez un très bon samedi matin. Justement, je suis moi avec Jody Bona. On vient d'écouter Summertime, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. Donc on est super bien finalement. Et puis c'est marrant parce qu'on parle de jazz et on parle en même temps d'art urbain. Donc c'est vrai que les deux choses sont comme ça, pas forcément d'une évidence très liée. Mais voilà, effectivement, Joe, toi, t'écoutais du jazz. Peut-être que t'en écoutes encore, encore. Peut-être que tu peins même parfois en écoutant du jazz.
Bah, écoute, moi, le jazz, en fait, pour te raconter ma vie, j'ai eu la chance au lycée d'être en art plastique. Donc, c'était une section A3 à l'époque. Et donc nous, on était A3 Arts Plastiques et il y avait juste en face le A3 Musique avec des musiciens fantastiques. Et j'étais à l'école notamment avec Dan Levy qui officie maintenant dans le groupe The Do et qui est un musicien chevronné, c'est un énorme artiste. Et à l'époque, bah, il nous a fait découvrir Béla Bartok, lui il décryptait les partitions de Barbe Bleue, on a découvert, grâce à lui j'écoutais Coltrane, Miles Davis, etc. Donc voilà, c'est une époque où j'ai écouté du jazz, mais je pouvais écouter très bien Coltrane et après passer à Led Zepp et après à Nirvana, tu vois, enfin, j'ai des goûts très éclectiques, très variés, et voilà, la musique me nourrit beaucoup, j'ai énormément de titres, de tableaux, qui sont des titres de morceaux de musique. Ça peut être vraiment tout ce qui me passe par la tête. J'ai des fois des gens qui me disent « Mais pourquoi cette toile s'appelle je sais pas, enfin, tu vois. »
Oui, le nom n'est pas forcément...
Parce que j'écoutais ce morceau au moment où j'ai peint la toile. Donc, mais je peins plus en écoutant la radio, tu vois,
des émissions. Ça tombe bien, c'est parfait, nous, on est d'accord.
Et j'écoute ça sur une toute petite radio, toute pourrie. J'ai pas d'internet dans mon
atelier. Voilà, faut se mettre aussi à
la page.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est intéressant ce que tu disais, effectivement, sur le fait d'aimer plusieurs choses même qui sont différentes, parce que maintenant on va justement aussi en radio vers ça, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir, s'ils aiment une émission de France Inter, écouter France Inter, s'ils aiment une émission d'une autre radio, la mettre et faire une sorte de playlist comme ça avec tous les choix qu'ils privilégient et donc possibilité bientôt même dans sa voiture ou chez soi, grâce à Internet maintenant, d'écouter un peu ce qu'on veut et de faire des mélanges comme ça, comme toi t'aimes faire. Alors Jody Bona, on va un peu parler quand même de la prochaine expo là, qui ouvre donc très bientôt, le 15 mars jusqu'au 31 mars, donc à la galerie Joël Knafo Art. On a beaucoup parlé de cette galerie au début de l'émission, qui est donc dans le quartier des Abbesses. Qu'est-ce que tu vas présenter concrètement là dans cette exposition qui s'appelle Transition?
Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai réattaqué ma carrière d'artiste d'art urbain, en fait, en faisant des graffitis, un petit peu comme je faisais quand j'étais jeune, et en collant par-dessus des visages, des affiches, etc., que je lacère, que je déchire, etc. Et c'est passionnant, ça peut être décliné quasiment à l'infini, mais là, j'ai eu besoin... de me replonger un petit peu justement dans d'où je venais, de ce que j'avais fait plus jeune, parce que en fait j'ai eu une interruption de carrière, c'est-à-dire que j'étais dans vraiment le graffiti vandale jusque dans les années 2000 où on essayait d'exposer, etc., mais on ne pouvait pas, c'était trop compliqué. Et puis à côté j'étais justement musicien, j'ai une carrière de musicien jusqu'en 2013 et je m'y suis remis que récemment, donc j'ai pas un background extraordinaire en art urbain, j'ai pas derrière moi 15 ou 20 ans comme certains de mes contemporains. Donc, en fait...
Bon, faut préciser que t'es pas non plus très vieux. Hein.
Bah, j'ai 42 ans, voilà, je m'en cache pas. Mais, Voilà, donc
en tout cas, voilà, il y a eu une interruption, une autre carrière avant. Donc, en fait, c'est vrai que tu es venu plutôt assez tard.
Assez tard, exactement.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été le déclic ?
Bah, en fait, dans la musique, ça c'est, j'ai eu une, voilà, pendant 13 ans, j'avais un studio d'enregistrement. On a fait beaucoup de tournées avec mon groupe, etc. Ça s'appelait Hôtel. Voilà, on était pas mal diffusés sur les radios. On passait sur 110 radios environ en France. On a fait pas mal de choses. On avait un clip en télé, etc. Puis ça s'est mal terminé, comme beaucoup d'histoires de groupe. Et ma chérie m'a vu un peu triste à ce moment-là, Amélie. Et elle m'a dit, bah écoute, je pense que ça pourrait être intéressant que tu repeignes. Je lui ai offert une toile à ce moment-là. Elle m'a dit, moi, je trouve ça vraiment génial. Si tu veux, je pourrais aller démarcher pour toi les galeries. Moi, j'y croyais pas du tout. Je lui ai dit, tu sais, le graffiti, tout le monde s'en fout. Voilà, c'était ma première réaction. Finalement, elle l'a fait. Elle a eu du succès avec ses démarches de tableaux que j'avais fait spécialement pour elle. J'en avais fait 4-5, hein, pas plus. Elle est tout de suite rentrée dans une très grosse galerie sur Paris. Puis après, une deuxième à Rouen, une troisième. Et puis, je me suis dit, c'est bizarre ça quand même. Donc, j'ai commencé à vendre mes premières œuvres. Et après, j'ai été appelé sur un festival où la première édition, j'avais exposé des œuvres. Ils m'ont dit, bah, Joe, pourquoi tu ferais pas un très grand mur ? Donc ça, je te dis ça, c'était en 2013. Donc je suis revenu en 2013 avec un mur énorme avec Canos, un artiste de graffiti que j'adore. Et il a souhaité faire une collaboration avec moi, donc j'étais très honoré. Et ça a commencé comme ça. Donc c'est pour ça que je te disais que j'ai pas un background de dingue et que... voilà, ça fait que ça fait à peine 5 ans, on va dire. Donc là, cette transition, c'était un peu une transition par rapport à tout ce travail que j'ai pu présenter depuis 4 ans et demi, 5 ans, avec une technique que j'ai proposée, avec, que j'ai déclinée, etc. Et puis là, je suis revenu un peu au graphisme du graffiti. Donc, c'est un petit peu plus brut. Voilà, je retravaille un peu les affiches différemment. Je superpose encore plus. Enfin, voilà, il y a pas mal de strates de travail, comme des vieux murs qu'on a vécu pendant... pendant toutes ces années.
Voilà, c'est peut-être... c'est un peu plus écorché, un peu moins lisse, c'est ça ?
T'as bien résumé l'histoire. On va dire ça. On va dire ça.
En tout cas, toujours aussi coloré, parce que c'est ce qui rend tes œuvres très pop et pleines d'énergie. C'est vraiment
toujours
la couleur.
Il y aura toujours de la couleur, de l'encre, de la peinture. Voilà, j'aime beaucoup... j'aime ça, quoi. J'aime la peinture. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Joël, c'est un galeriste... qui n'est pas juste dans la demande de « donne-moi des œuvres, je les accroche, merci, au revoir ». C'est quelqu'un qui va aussi creuser. Donc, on a pas mal échangé ensemble. Et il m'a dit « écoute, est-ce que ça t'intéresserait pas de, enfin voilà, de réinjecter peut-être... Moi, je peins essentiellement à l'aérosol, mais d'injecter peut-être plus de peinture, de travailler un petit peu. » Et moi, dans ma tête, déjà, j'y pensais, mais je n'osais pas forcément aussi rapidement, parce que c'est vrai que c'est une carrière finalement qui est très courte hein, que j'ai. C'est une carrière dans la carrière, on va dire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis, c'est un petit peu aussi, je le vois aussi un peu comme une avant-première d'un gros, gros solo show qu'on a dans la tête ensemble. Donc là, ça sera pas... Enfin, il va pas y avoir 5000 toiles. Hein. Il y en aura, on va dire, une vingtaine, ce qui est déjà bien.
Ouais.
Il y aura des grandes toiles, des plus petites. Voilà, mais c'est un petit peu une avant-première. Voilà, c'est une recherche, c'est un travail. En fait, je présente quelque chose qui est presque en recherche, en balbutiement. Donc, c'est assez intéressant pour moi. J'ai... peur, tu vois, d'en parler, ça me fait un petit peu stresser, mais voilà.
Bon, on va pas trop, du coup, tout dévoiler, mais en tout cas, voilà, on a compris que tu es en recherche, et ça, c'est important, je pense, pour un artiste, il faut aussi se remettre un petit peu en question, essayer de faire évoluer un style, tout en peut-être gardant, effectivement, ses bases. Et puis, ce solo show, donc, on attendra, tu nous diras. Voilà, on n'en dit pas plus, mais donc, ce sera à Paris, dans cette galerie, normalement, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Voilà, toujours le même lieu.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Alors, donc, c'est à partir du 15 mars, en tout cas, je le redis. Donc, ton exposition, Transition, Joël Knafo Art Gallery.
Voilà, à partir de 18h, voilà. Tout le monde est convié au vernissage.
Voilà, ah oui, il faut le noter aussi.
Voilà, à 18h, il y a le vernissage, le 15 mars, le jeudi.
Tout le monde peut venir.
J'espère qu'il fera beau. C'est une jolie rue, c'est un beau quartier. Il y a une belle ambiance. Il y a un gentil galeriste et un super gentil artiste.
Voilà, c'est ça. Alors, Joe Dimona, si on veut te découvrir comme ça, en se baladant, en se promenant, est-ce qu'il y a moyen de voir certaines de tes œuvres, de tes murs ou de tes fresques quelque part dans Paris ou ailleurs d'ailleurs, dans d'autres villes. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les voir encore, ou alors elles ont toutes disparu?
Bah après, voilà, l'art urbain, on va dire c'est éphémère. Alors,
ça reste peu de temps, c'est recouvert.
C'est souvent recouvert par d'autres artistes, par des vandales aussi, parce que voilà, le milieu d'où je viens, c'est ce que, quand j'étais jeune, je taguais partout et voilà, il n'y avait pas un vrai respect des choses. Et voilà, les œuvres sont souvent taguées, recouvertes, etc. Donc, mais j'ai encore la chance d'avoir des œuvres qui sont visibles, notamment une rue Françoise Dolto. Mmh. C'est d'ailleurs un portrait d'enfant, donc ça tombe plutôt bien. C'est dans le 13e. J'ai aussi le mur de rue Verneuil de la maison de Serge Gainsbourg. Donc j'avais été convié à réaliser ce mur pour l'anniversaire de son décès, qui est chaque année renouvelé par des artistes. J'avais demandé à faire le mur en entier, ce qui m'avait été accepté. Voilà. C'était passé à Télématin, enfin voilà, très belle.
Oui, il y a eu pas mal de...
Ça a été beaucoup relayé.
De relais, oui.
Voilà, donc ça, il est encore là, mais bon, il commence à un petit peu se faire griffonner dans tous les sens. Et puis j'en ai aussi à l'étranger, j'en ai au Portugal, dans un endroit merveilleux qui s'appelle Lourdes, voilà, avec l'accent portugais.
Dans quelle ville?
C'est Lourdes, voilà.
C'est Lourdes, mais c'est...
Ça s'écrit Lourdes, L-O-U-R-E-S, et c'est Quinta do Mocho, c'est en fait une cité où, il y a 4 ans en arrière, on pouvait vraiment pas mettre un pied. C'était une des cités les plus dangereuses au monde. Je crois que c'était la 10e cité la plus dangereuse au monde.
Ah oui.
Et ils ont décidé, en fait, le centre culturel de la ville, de développer le street art, l'art urbain, etc. en général sur les façades. Et moi, j'ai peint, en fait, la 76e façade. Donc là, évidemment, c'est pas touché. Et c'est vraiment un musée à ciel ouvert. Donc c'est en banlieue de Lisbonne. Et c'est à visiter. Donc il y a plein de visites quasi quotidiennes de ce lieu assez incroyable.
Ah oui, donc là, c'est sympathique parce que ça reste, c'est visité,
exactement.
Donc c'est presque une sorte de petit musée à ciel ouvert.
C'est exactement ça, ouais. Donc là, et puis après, j'en ai un pour ceux qui iront à Atlanta, en plein cœur d'Atlanta. Voilà, donc après, j'ai des murs qui restent quand même un petit peu, quoi.
Alors Joe, je te propose maintenant de faire une autre petite pause dans cette émission. On va écouter Amy Winehouse. Alors le titre que tu as choisi s'appelle You Sent My Flying. Est-ce que un petit mot pour sur cette chanson? Pourquoi cette chanson? Pourquoi Amy Winehouse?
Bah Amy Winehouse, c'est un diamant brut, quoi. Elle est là, on le sent dans cette chanson. Il y a une émotion. Enfin, moi, j'écoute ça, j'ai les poils tout de suite qui se dressent. Et puis, voilà, juste avec une guitare. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un... Je sais pas si tu as eu la chance de voir le film, Amy, mais c'est extraordinaire, je te le conseille. Je le conseille à tous ceux qui écoutent. Sur sa vie, son œuvre, sa difficile vie par moment. Et ça se sent là, vraiment, pour moi, c'est... Enfin, voilà, on n'est pas forcément obligé d'être torturé pour être artiste, mais là, il y a tout, quoi.
Ouais, il y a les frissons.
Il y a ces tripes, là, qu'elle livre. Voilà, sur ce petit enregistrement, on a l'impression qu'elle chante juste à côté de nous. Donc
bah, du coup, on va tout de suite l'écouter. Amy Winehouse, You Sent My Flying. With the Marlboro bread. Yeah. And now I feel so small. Discovering, you know, how much more torture what you have put me through. 'Cause you probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes. Yeah. And although my pride not easily disturbed. You sent me flying when you kicked me to the curb. Oh, now with your better jeans and your beasties. Now I can't work like this, no, not with you next to me.
His message was brutal, but the delivery was kind. Maybe if I get this down, I'll get it off my mind. Hey, get out my mind. Cause it serves to condition me and smoothen my case. Despite my frustration for the way that he thinks, cause I hate the way he thinks, and I knew the speech when it came will be to that effect. At least you're attracted to me, which I did not expect. No, I didn't think you'd give my number down to such. But you know I never hated myself for my age so much. And although my
De retour avec Jody Bona qui est toujours à côté de moi dans l'émission Hors des cadres sur Art District. Jody Bona, on te reçoit ici parce que, bon, ben voilà, une exposition bientôt, plein de projets aussi. J'ai vu un petit peu sur le déroulé de tes projets que tu m'as envoyé. C'est aussi l'occasion pour les auditeurs, j'espère, de te découvrir s'ils ne te connaissaient pas. On a parlé du graffiti, du street art, on a parlé un peu de ta jeunesse aussi. Alors on va justement peut-être parler un petit peu maintenant de l'avenir. Justement, on a parlé de cette exposition qui arrive, mais est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Oui, alors j'ai pas mal de projets dans les tuyaux, comme on dit. Alors je t'avoue, je les ai notés dans mon superbe Nokia. Hein, parce que...
Alors il faut préciser, puisque bon, évidemment vous ne pouvez pas le voir, mais Jody Bona a un superbe Nokia. De quelle année est-il ?
Je pense qu'ils l'ont créé avant que je vienne au monde.
Voilà, donc il y a encore une espèce de clapet là, ouais. Ça ne se fait plus maintenant.
Bon, ne te moque pas s'il te plaît, il est très très bien.
Il n'y a pas internet dessus.
Mais j'ai de la batterie. J'ai de la batterie.
Ah, remarque, les vieux téléphones sont beaucoup plus résistants en termes de batterie que les nouveaux, donc.
Et puis tu vois, j'ai des petites notes, donc oui. Alors pour les projets, c'est un petit peu tout en même temps. J'ai eu un peu tout en même temps dernièrement. Donc j'avais une expo là qui, je pense, vient de s'arrêter à Madrid, à la Swinton Gallery, avec pas mal de supers artistes, dont Douron, Pro 176, Opar, Théo Lopez, voilà, des gens que j'apprécie beaucoup. J'ai fait aussi une expo dernièrement à New York qui s'appelait Immigrate. Donc c'est vraiment une grosse association qui lutte contre les discriminations raciales. Et aux États-Unis, c'est vrai que ça se sent énormément quand on s'y promène, etc. Bientôt, j'ai fait récemment l'Art Up à Lille aussi, qui était une grosse foire avec toujours Joël Knafo. Nous aurons aussi ensemble l'Urban Art Fair en avril, donc, qui ouvrira ses portes. Donc, j'ai plus les dates en tête, mais il faut taper Urban Art Fair. Donc, c'est vraiment un salon extraordinaire. Je le recommande à tous les auditeurs d'Art District parce que c'est un lieu fabuleux où on peut autant, enfin voilà, dans l'art urbain aujourd'hui. Là, par contre, je mets j'ouvre le truc à art urbain. Il y a tellement de choses. Tu peux retrouver du graphisme pour ceux qui aiment le graphisme, de l'art plastique pour ceux qui aiment l'art plastique, de la sculpture, de l'installation. Enfin, aujourd'hui, enfin voilà, l'art urbain englobe beaucoup de choses et les artistes se sont emparés quasiment de toutes les formes d'art qui pouvaient exister, qui les ont développées et intégrer et qui continue à les développer tous les jours. Donc, c'est fabuleux, quoi.
Donc pour toi, c'est important, justement, de faire des salons régulièrement ?
Les salons, en fait, les galeristes les font. Ça permet aussi de montrer les œuvres. Alors, j'ai une galeriste aussi qui s'appelle Virginie Barou-Plancard, que je salue, et qui, justement, elle s'occupe de moi sur l'étranger. Donc, Hong Kong, Lausanne, Bruxelles, New York, voilà, un petit peu partout. Elle se déplace partout dans le monde. Alors, c'est, faut imaginer que c'est une grosse logistique, c'est des conteneurs qui se baladent sur, sur l'océan avec des œuvres d'art. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que Virginie s'occupe vraiment de moi à l'international, Joël plus sur le plan national. Et puis, bien sûr, les salons, ça permet de rencontrer un public assez large, assez éclectique, des gens qui vont plutôt s'intéresser à l'art contemporain et qui, là, ont une autre vision. Alors, par contre, l'Urban Art Fair, en avril, c'est vraiment que de l'art urbain. Voilà. Donc, personnellement, enfin, ouais, j'étais vraiment bluffé par plein d'autres artistes.
Alors, on parle des salons et un petit mot peut-être sur les musées. Est-ce que tu as déjà fait des expos dans un musée? Est-ce que tu as des œuvres qui potentiellement pourraient rentrer dans un musée? Est-ce que ça, c'est des choses... Parce qu'on sait qu'il y a des street artists voilà, maintenant qui sont beaucoup exposés justement dans des lieux officiels qui exposent de l'art. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu aimerais ou que tu souhaiterais ou...
Bah, en fait, j'ai déjà été racheté par des musées, dont le musée national d'Étampes qui m'a acheté une œuvre. Donc, je suis rentré au musée finalement. Au musée de l'immigration aussi, où j'ai la chance de peindre une énorme fresque avec d'autres artistes et Ozaro, qui est une agence de street art. Donc il y a déjà des agences aussi aujourd'hui, c'est intéressant de le savoir, qui s'occupent de développer les artistes et de les présenter dans des lieux assez insolites où on ne s'attend pas forcément à en voir. Et on a fait un énorme totem de quatre faces. Donc, de mon côté, je l'ai fait avec Kuka et Astro, qui sont des artistes aussi que j'aime beaucoup. Donc, chaque artiste, on était trois par totem, avait une face. Et la dernière face, on a fait une collaboration des trois artistes. Mm. Et pareil, en face, où il y avait Stu, Kashink et Kanos, qui ont fait aussi, eux, leur totem. Et ensuite, bah, le musée a gardé certaines œuvres, donc le musée de l'immigration. Donc voilà, après je sais que j'en ai d'autres, mais je t'avoue que j'ai une petite mémoire.
Alors ça c'est pas grave, de toute façon tout est à retrouver sur ton site internet j'imagine, jodibona.com, les gens peuvent te suivre sur Facebook aussi et puis tout simplement suivre ton actualité, je crois que tu as un Instagram aussi.
Alors, voilà. Instagram c'est vraiment voilà. Le truc en ce moment, donc voilà sur Instagram c'est @jodibona, J-O-D-I-B-O-N-A.
Voilà, donc je pense que c'est quand même assez simple, même si de toute façon on ne peut pas tout dire dans cette émission. Juste peut-être avant de se quitter, c'est quoi ton rêve, Jody Bona? Est-ce que tu en as un en termes artistiques?
Un rêve, c'est...
Un rêve de peindre quelque part, peut-être, dans un endroit complètement fou ou...
Alors déjà, mon premier rêve qui me vient tout de suite comme ça, c'est que ça continue. Voilà,
ça, c'est un rêve très terre-à-terre. Bon,
oui,
je pense
mais
que,
c'est bien.
Voilà.
C'est
mais
c'est
si tu as un rêve un petit peu plus utopique... Hein.
Utopique, aller peindre sur la face cachée de la lune.
C'est ah génial, oui, ça. Hein, quand même, c'est très poétique.
Bah voilà, ça rappelle en plus Pink Floyd, que j'adore aussi.
Alors voilà, on ne peut pas mettre tous les morceaux de musique, effectivement, qu'on aurait envie de passer. Alors peindre, aller sur la lune, quoi, finalement.
La face cachée, vraiment. Face cachée. Ça donne un côté un peu. Voilà.
Et puis, j'avais aussi envie de te demander, bon, je pense que c'est quelque chose qu'on t'a souvent dit dans les interviews, mais effectivement, en tant qu'artiste, bon, on peut se sentir plus ou moins engagé, hein, on n'est pas obligé de l'être d'ailleurs, mais est-ce qu'à travers quand même tes œuvres, les visages que tu montres, une certaine humanité qui se dégage finalement de tes peintures, est-ce qu'il y a voilà, aussi parfois la vocation pour toi effectivement de porter un message, de faire que le monde soit peut-être un peu meilleur à travers le regard que peuvent porter les gens sur tes peintures, histoire de rassembler le monde, surtout que je pense quand on est effectivement un artiste d'art urbain, comme on est vraiment dans la rue, on touche tout de suite un public qui n'est pas forcément dans le musée d'ailleurs, voilà, donc on touche vraiment tout le monde et il y a effectivement ce lien très proche avec le public et donc on peut lui parler à travers les œuvres. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu voilà, que tu aimes, que tu ressens, que tu as envie de porter?
En fait je serais presque tenté de te dire que j'ai pas le choix. C'est dans mes veines, dans mon sang, c'est-à-dire que je suis un humain et je pense qu'un artiste n'est pas seul. Tu t'adresses aux autres et quand tu peux redonner derrière, justement, voilà, l'arme que l'on a en tant qu'artiste, et ça, c'en est une véritable, c'est de pouvoir partager, de pouvoir relayer des projets, de pouvoir aider sur des projets, aider d'autres humains. Voilà. Mm-hmm. Donc ça me tient énormément à cœur. Donc je me suis engagé quelque part. Je ne suis pas un artiste engagé, je ne défends pas cette idée, je ne suis pas politique ou quoi que ce soit. Mais quand je peux aider et que le projet me touche, voilà, j'ai fait énormément de projets avec et pour Emmaüs, mmh. Emmaüs International, Emmaüs France, Emmaüs Alternative. Voilà, j'ai travaillé pour plein de... Parce qu'il faut savoir qu'Emmaüs, ça relaie dans plein de choses. Voilà, j'ai grandi un petit peu avec l'abbé Pierre aussi parce qu'il a fondé Emmaüs à Neuilly-Plaisance. Donc, c'était vraiment la première maison Emmaüs où j'ai grandi. Mmh. Donc, j'avais l'habitude d'y aller. Et donc, j'ai été très honoré de pouvoir... Enfin, voilà, même si je n'ai pas rencontré l'abbé, ce que j'aurais adoré, j'ai pu... m'immiscer quelque part dans sa vie. J'ai été invité aussi à peindre, c'est vraiment son centre en Normandie qui est à visiter, où il y a le musée Abbé Pierre, etc. Mm-hmm. Donc j'étais complètement en immersion, j'étais tout seul là-bas. J'ai travaillé aussi pour Première Urgence Internationale, où, voilà, sur l'exil syrien. Donc c'était vraiment assez difficile, fallait vraiment se plonger là-dedans. J'ai hésité aussi à faire ce projet parce que c'est très difficile aussi de se dire qui on est pour pouvoir représenter ça, etc.
Donc tu as représenté quelque chose là
En fait, j'ai utilisé les photos d'Agnès Varenne-Leca, qui a été dans les camps de Syriens au Liban, qui a été prendre des photos d'enfants, etc., qui m'ont beaucoup touché, et que j'ai remis sur des rues dans Paris. Donc un petit peu pour dire, voilà, on est là, on est des enfants, on existe, et je vous regarde aujourd'hui sur ce mur. Donc...
C'est très beau ce que tu dis, et c'est vrai que du coup là on se dit bon, peut-être que ces peintures n'existent plus, puisque comme tu disais tout à l'heure, c'est éphémère. Mais est-ce que tu as toi envie de garder une trace? Est-ce que tu les photographies? Est-ce que tu en fais des albums? Est-ce que tu gardes une archive?
Oui. Alors évidemment, on a les photos. Hein, tous les artistes de rue le savent très bien.
Hein, tous.
Oui. Ça, franchement, même à l'époque, hein, quand on était dans les années 89-90, qu'on allait peindre un train, tu penses bien que le train, il vivait pas très longtemps. Donc, on le photographiait. Et j'ai même des archives de cette époque que je partagerai, je pense, un jour sur Instagram ou que je relaierai parce que je trouve ça rigolo. Mais. Voilà, bien sûr, on photographie, c'est souvent aussi aujourd'hui filmé, c'est presque, il y a certains vidéastes, des fois quand ils me suivent, notamment Alex Galosi qui est un proche vraiment, et, quand il réalise des vidéos, des choses comme ça, c'est quasiment des clips, tu vois. Donc aujourd'hui c'est vrai que c'est devenu vraiment quelque chose de, on va dire c'est presque proche de la musique finalement. Il y a des clips aujourd'hui d'art urbain, on va pas dire des titres, mais enfin il y a certaines toiles, c'est devenu des tubes, donc c'est assez rigolo, et évidemment on garde des traces de tout ça.
On va donc se quitter en musique puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Jody Bona, merci beaucoup.
Merci à toi
d'avoir été là, de nous avoir raconté un petit peu donc ce qui t'anime, et puis évidemment donc expliquer ton travail, un travail qu'on peut donc voir à partir du 15 mars à la galerie Joël Knafo Art à Paris. C'est jusqu'au 31 mars. Si on veut te découvrir et même te rencontrer, il y a le vernissage le 15 mars à partir de 18h.
C'est exactement ça.
Voilà, donc tout est dit. jodybona.com, on l'a déjà dit, mais je le redis, avec Instagram et aussi Facebook. On se quitte avec un morceau que tu as eu envie aussi de partager ici avec nous. Ibrahim Malouf, alors évidemment, ça c'est le grand Ibrahim Malouf, un morceau qui s'appelle Run the World Girls.
C'est une cover en fait de Beyoncé, mais on s'en rend pas forcément compte.
Ouais.
Mais ce titre-là, voilà, la première fois que je l'ai entendu, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, ce son de trompette. J'adore la trompette en fait. Hein. Je t'ai cité dans les articles, j'ai hésité à mettre
Miles Davis,
Chet Baker. Qu'est-ce que tu veux faire là?
Il y a des grands. Oui.
Oui, voilà. Et puis en fait,
il y a peut-être moins maintenant d'ailleurs des grands trompettistes. À une époque, il y avait vraiment des grands noms de la trompette.
C'est pour ça qu'Ibrahim, il fait vraiment du bien. J'invite aussi les gens à aller le voir en live parce que c'est une grosse claque, c'est violent, c'est rock and roll, c'est tout ce qu'on veut, c'est bien évidemment c'est du jazz, mais on peut danser, on peut, enfin c'est génial.
Oui, et puis là c'est presque même un peu électro, hein.
Il y a de l'électro, son guitariste est fabuleux, enfin voilà, c'est de la grande musique, c'est un grand musicien, voilà, donc j'espère un jour même le croiser, pourquoi pas faire son portrait, voilà, ça c'est le genre de personne qui m'inspire. Et ce titre-là, je le trouve absolument génial et je l'avais même pris pour une petite vidéo de justement pour Première Urgence Internationale. J'avais pris ce titre-là. Voilà. Sans demander. Alors, j'ai demandé les droits et puis a priori, il y a un de ses amis qui a dit oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, voilà, je suis absolument fan.
Bon, bah, affaire à suivre. Alors, du coup, en attendant, eh bien, on va se quitter en musique. Jody Bona, c'est la fin de l'émission Hors des cadres sur Art District. Et donc, on se quitte en écoutant Ibrahim Malouf, Run the World. Et un grand merci à toi d'être venu.
Bah, merci beaucoup.